1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tour. On est en direct sur Canal B pendant 1h10 à peu près, non précisément, jusqu'à 17h40 si vous écoutez en direct. Donc une émission qui aujourd'hui eh bien, nous permettra de rencontrer trois ours. Alors je ne crois pas que ce soit véritablement des animaux qui nous rejoindront tout à l'heure. En tout cas, ils sont invités par Ronan. Ils nous parleront théâtre et il est plutôt question, j'imagine, eh bien, de l'organigramme d'un journal. Quand on parle de l'ours, oui, et non pas de l'animal. Voilà. On retrouvera une session info-concert tout à l'heure pour évoquer une actualité riche pour Crème Brûlée Records. On pourra aussi écouter les albums découvertes pour les radios de la Ferra Rock et puis entendre quelques nouveautés musicales, sans oublier bien sûr la présence de Soisy Le Bail, puisque nous sommes mercredi et que le mercredi on lit et c'est Allez on lit numéro 67. Elle nous parlera du roman Le Clash de Benoît Séverac. Et moi je sens que le micro que j'utilise en ce moment est en train de se casser la gueule, donc je vais faire une petite pause, lancer le premier morceau de l'émission. Il s'agit du musicien Gus Engelhorn qu'on attend avec impatience sur un nouvel album qui arrivera d'ici quelques semaines, The Horn Book, le 31 janvier pour le label Secret City. Toujours aussi bouillonnant, toujours aussi électrique, parfois un peu tribal. Et oui, on écoute Gus Engelhorn pour débuter l'émission Le Grand Tout maintenant avec ce morceau Metal Detector. Bonne émission.
And with the muttering in the bush and metal in the hills and a serpent in my side.
control. What's your name? Housing for all. What's your name? Abolish prison. What's your name? Did you get a revival? What's your name? Love not hate. What's your name? Rights for women. What's your name? I become idiot slurs. What's your name? Pay health care. What's your name? Higher wages. What's your name? Legalize drugs. What's your name? Housing for all. What's your name? Abolish prison. What's your name? Did you get a revival? What's your name?
Engelhorn pour débuter le grand tour aujourd'hui, nouvel album à la fin du mois, un album intitulé Hornbook, l'ABCDR, c'est ça que ça veut dire en français. Puis à l'instant, les Américains de Death Demonas, ils viennent de Washington DC, d'anciens membres des Make-Up à l'intérieur du groupe. Ça se sent un petit peu dans le côté imprécateur comme ça du chanteur, dans le clavier assez présent sur tous les titres de cet album Apocalyptic Boom Boom. C'est leur deuxième album pour le label In The Red. On écoutait à l'instant un titre qui nous parlait de mensonges. Tout le monde ment, hein, d'après le texte de cette chanson. Tout le monde, qu'on s'appelle Donald, Nicolas, Emmanuel, peu importe, on ment. En tout cas, ils mentent. Ça, c'est sûr. On poursuit avec Jimmy Tenor. Jimmy Tenor, le musicien finlandais, toujours roi du groove, qui aime aussi bien se balader dans des choses cosmiques, funk, afro-funk, soul très profonde et très, très, très élégante. Et bien, Jimmy Tenor reviendra bientôt, alors on ne sait pas exactement quand, ça sera au printemps 2025 pour l'excellent label Timion Records qui nous donnera un nouvel album en attendant ce single Summer of Synesthesia, histoire que les couleurs correspondent à des numéros qui correspondent à des sons peut-être, c'est ça la synesthésie il me semble. On écoute donc ce titre de Jimmy Tenor et puis juste après eh bien on ira bouquiner un peu avec Swazig Le Bay pour sa chronique Allez on lit, ce sera la 67e du nom, juste après que vous aurez entendu ceci. Et puis tout à l'heure, après Jimmy Tenor et après Swazig Le Bay et Allez on lit, on parlera théâtre, mais théâtre d'une nouvelle façon, peut-être avec les trois ours invités dans Le Grand Tout aujourd'hui par Ronan.
like blue and green. Picture perfect scene, like a daydream, a blur of sounds, sound of the trees, sound of the clouds, the wind and the sun.
Chronique littérature jeunesse par Soizic Le Bail sur Canal B.
Le mercredi, dans l'émission Le Grand Tout sur Canal B, nous retrouvons Soizic Le Bail. Bonjour Soizic.
Bonjour Yann.
Qui nous parle bouquin aujourd'hui dans cette chronique Allez, on lit. Tu nous parles d'un roman intitulé Le Clash par Benoît Sévrac aux éditions Syros.
Nicolas marche dans la montagne avec son fils Aurélien. Aurélien, 15 ans. C'est la dernière rando avant le départ du garçon pour l'Angleterre. Premier grand départ de sa famille. Et c'est l'occasion pour le père de raconter son propre voyage en Angleterre en 1978, à Birmingham, deuxième ville du royaume à cette époque-là. Un mois en famille d'accueil, cours le matin, activité culturelle l'après-midi. La famille d'accueil est chaleureuse. Leur fils, Tom, est punk. Cheveux coiffés en pique, rouges et bleus, yeux maquillés, pantalons déchirés. Il parle super mal à ses parents et semble en perpétuelle colère, contre tout. Pour Nicolas, qui vit dans un village rural au pied des Pyrénées, c'est la stupéfaction et la curiosité aussi. Lors d'un après-midi libre passé dans un immense centre commercial, là aussi grande découverte, les Français assistent à une bagarre entre skinheads et punks. Les fachos contre les anarchistes, dit-on. Et c'est pas de la rigolade, hein. Un mort restera sur le carreau. Tom est emballé et exige un compte rendu précis de l'événement lorsqu'il se rend compte que Nicolas était là. Dès lors, Tom va donner une leçon d'anarchie à son locataire ignorant. Il va lui parler de lutte des classes. un vent de rébellion à l'ordre établi. Ouais, quoi de plus séduisant pour un garçon de 15 ans? Et Nicolas est bluffé. Un jour, en rentrant du cours, il se fait agresser et racketter par des skinheads. Et Tom décide de le venger. Mais le lendemain, la bagarre dégénère. L'un des agresseurs reste sur le carreau. Tom entraîne alors Nicolas dans une fugue à Brighton pour fuir la police. Alors là, Nicolas déchante assez vite. Hein. Il se rend compte de la gravité de la situation. Et puis la vie dans un squat, c'est pas tout à fait ce à quoi il est habitué. Et puis boire de la bière dès le matin non plus. Il se rend compte que la situation lui échappe complètement et que lui et Tom sont recherchés par la police. Alors là, tout d'un coup, il se dit qu'il a des parents aimants, qu'il a des parents attentifs. Et que pense-t-il et où sont-ils? Dans quelles inquiétudes il a plongé ses parents? Je vous ne dirai pas plus, hein, mais ce roman alterne le récit du père et les scènes contemporaines avec son fils, hein, ce qui permet une mise à distance des événements, apporte un peu de légèreté au sujet, grâce à l'humour d'Aurélien qui épingle gentiment son père, dont il découvre une part de son adolescence pas si reluisante. La complicité père-fils est bien salutaire. Ce roman raconte aussi combien on a envie d'appartenir à une bande, comment on se laisse influencer, et puis qu'il faut peut-être savoir dire non, mais ce n'est pas si simple. Un portrait d'une ville anglaise populaire, un portrait de la contre-culture punk, des affrontements violents entre bandes qui sont la bande-son et le décor de ce roman sensible.
Parlons de bande-son, j'imagine que la musique idéale, ce sera celle de The Clash, peut-être pour accompagner la lecture de ce roman, Le Clash, par Benoît Séverac, aux éditions Syros. Merci beaucoup, Soisig, à bientôt.
À bientôt.
Vous aurez bien évidemment toutes et tous reconnu ce fameux Police and Thieves par The Clash sur leur premier album en 1977. C'était la reprise d'un morceau jamaïcain de Junior Mervyn. Comme il se doit, on retrouvera Soisig Le Bay mercredi prochain pour à nouveau nous parler bouquins, soit dans ses chroniques bouquets garnis, plein les poches, ou Allez, on lit. Dans la page culture de l'émission Le Grand Tout, maintenant, eh bien, Ronan invite les trois ours, et en l'occurrence Louise Katz. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bonne année à vous deux, bien sûr.
Oui, à toi aussi. Oui, eh bien, pour parler d'une forme de nouvelle forme de spectacle vivant qui arrive à Rennes le 24 janvier, grâce aux Trois Ours. Alors, il semblerait que le spectacle vivant ne cesse de repousser ses propres limites, et peut-être est-ce là justement l'une des raisons qui justifie ce qualificatif de vivant. Il est également certain que ce spectacle vivant cherche très souvent à s'inscrire dans le réel, au plus près du réel, pour nous en livrer à chaque fois une vision renouvelée, médiatisée par le prisme de la création. Or, si le théâtre est bien le lieu de l'illusion, c'est aussi celui de la distanciation et finalement, ce qui pouvait sembler paradoxal fonctionne plutôt très bien. Depuis pas mal d'années, on parle par exemple de théâtre documentaire et l'on pensera entre autres à Mohamed El-Khatib, même s'il réfute cette appellation de théâtre documentaire. Mohamed El-Khatib qui donne à voir sur scène des pans souvent invisibilisés de notre société. Un metteur en scène qui par ailleurs a les faveurs du public puisque sa dernière création, La vie secrète des vieux, programmée en mars au TNB, affiche déjà complet. Mais aujourd'hui avec les Trois Ours, eh bien on franchit un pas supplémentaire dans notre quête de réel et l'on va s'intéresser à ce qui pourrait bien devenir un genre à part entière du spectacle vivant, l'information sur scène, l'information portée à la scène, l'information performée. À moins qu'il ne s'agisse d'une nouvelle catégorie de médias en plus de la presse, de la radio, de la télévision ou du numérique. Information-spectacle ou spectacle-information, expression qui pourrait cependant sembler un peu ambiguë et nous faire douter du bien fondé de l'opération. Mais nul doute que les Trois Ours sauront dissiper cette crainte. Faire monter l'actualité sur scène, c'est peut-être l'occasion de restaurer un peu une confiance à rien ébréchée face aux médias, en nous donnant justement à voir le récit intime et incarné d'un travail journalistique face à un événement récent qui, pour le coup, dépasse, hélas, vraiment la fiction. En tout cas, cette tentative de rapprochement entre deux pratiques a priori fort éloignées se poursuit depuis presque 10 ans déjà en France, à l'initiative par exemple du collectif Live Magazine, qui a déjà à son actif un bon nombre de spectacles d'actualité, ou encore par exemple de Radio Live d'Aurélie Charon et Caroline Gillet, que certains ont pu découvrir à Rennes lors du dernier festival TNB. Aujourd'hui, c'est au tour des Trois Ours de se lancer dans cette aventure du spectacle d'actualité le 24 janvier à la Salle de la Cité. Alors bon, pour moi, les Trois Ours, ça évoque avant tout Boucle d'Or, vous vous rappelez sûrement, qui a mangé dans mon assiette, qui a bu dans mon verre, qui a dormi dans mon lit et dorénavant, qui a lu dans mon journal ou mon journal. Bizarre métaphore animalière qui sera donc l'objet de ma première question, Louise. Pourquoi ce nom? Pourquoi avoir choisi les Trois Ours?
Eh bien, les Trois Ours, c'est d'abord une allusion à l'ours de presse, c'est-à-dire le générique d'un journal auquel on ne fait pas toujours attention, mais il y a des mentions légales, en fait, voilà, qui sont les journalistes, qui est le directeur de publication ou la directrice de publication, directeur de rédaction, etc. Donc c'était une première allusion à ça. Et puis, en fait, c'est déjà, cet ours de presse a une origine particulière. En fait, il a deux étymologies possibles, soit ça désigne l'ours qui était l'ouvrier d'imprimerie qui abaissait la presse parce qu'il fallait qu'il soit très fort par rapport au compositeur qui était un singe parce que forcément savant. Et il y a une autre étymologie, donc ça c'est l'étymologie on va dire française, et l'autre étymologie est anglaise qui voudrait dire que ça ne serait pas ours mais ours, donc les nôtres en anglais, qui sont les membres de l'équipe. Et donc comme on travaille beaucoup sur la question des communs et de la communauté, et eh bien voilà, on s'est dit ça sera ce qui est nôtre. Et puis il y avait aussi une filiation entre notre précédent projet qui s'appelait La Grenouille à Grande Bouche, qui était un média culinaire, et Les Trois Ours, qui est notre nouveau média sur scène.
Alors justement, tu l'évoques, la question de l'origine, vous venez d'où en fait? Tu as évoqué La Grenouille à Grande Bouche.
Alors donc on est trois ours, donc il y a moi-même, Nathanaël, Simon et Julie Lalette-Geffroy. On est tous les trois journalistes et on s'est tous les trois rencontrés au moment où on a initié ce projet de magazine culinaire participatif qui était La Grenouille à Grande Bouche, qui était aussi adossé à un restaurant qui était au Blon. Le projet n'a pas survécu aux vagues de Covid. Il faut dire qu'on avait ouvert le restaurant en février 2020, donc ce qui n'était pas un très bon timing. Et donc on s'est tous les trois rencontrés à cette occasion-là. Voilà.
Alors revenons au présent. Quel est le projet des Trois Ours?
Alors le projet des Trois Ours, c'est de faire monter l'information sur scène. Donc vous avez cité effectivement le Radio Live, il y a aussi le Live Magazine, on a aussi Média Vivant à Marseille. Il y a aussi, vous l'avez dit, plusieurs médias qui font ça aujourd'hui, qui montent leur propre spectacle sur scène. Libération l'a fait, La Croix l'a fait. Donc c'est de plus en plus effectivement un nouveau canal médiatique, au même titre qu'on va avoir un site web, une appli, une version papier. Eh bien, maintenant, il y a des moments de spectacle, des moments. L'idée, c'est vraiment de faire monter des journalistes sur scène, de pas les transformer en comédiens, mais que les journalistes aient vraiment un moment, pour autant que ça soit quand même vraiment un spectacle, avec une création lumière, avec de la musique. On va pas taper les trois coups au début, mais on pourrait avoir envie de ça. Et donc, voilà, d'avoir un moment, en tout cas, où on peut rétablir le lien direct entre journalistes et informés. Et aussi, il y avait cette envie de créer des temps d'information collectif. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est un petit peu chacun face à nos écrans, chacun sur son smartphone, enfin voilà, on a nos abonnements, on est dans une information qui est de plus en plus segmentée pour s'adresser à nous. Voilà, parce que l'information, c'est aussi un produit marketing. Et donc, nous, on avait envie de recréer des temps collectifs où on voit la personne à côté de nous qui peut-être est émue, qui peut-être est triste ou en colère. D'amener comme ça les gens à pouvoir rééchanger, se reparler en ayant reçu la même information au même moment. C'était un peu ça l'envie et le pari. Donc, voilà. Et donc, on essaye de vraiment développer une information plus régulière auprès d'un public, qu'on puisse aller s'informer au théâtre, comme on le ferait en étant abonné à un magazine ou à un site internet.
Donc l'idée, le besoin peut-être auquel vous pourriez, si j'ai bien compris, répondre, c'est de redonner un peu de collectif finalement à une pratique qui est peut-être parfois un petit peu trop individuelle.
Exactement. C'est vraiment de remettre du lien et entre les gens, de rétablir du lien entre journalistes et informés, et de pouvoir rediscuter ensemble. On voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont très clivants, très violents, et nous, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller sur ces sujets-là qui dégoûtent déjà tout le monde, et pour dire, mais on va quand même en parler ensemble. Il faut qu'on trouve des moyens d'en parler. Donc c'est de créer, donc il y a un espace spectacle, et après l'idée, c'est qu'il y ait toujours des temps de rencontre et de discussion.
Et justement, pour recréer ce lien, il me semble qu'en fait, vous déclinez un petit peu l'information sur scène en plusieurs formes scéniques. Vous pourriez nous les présenter ?
Oui. Alors, en fait, on avait du coup l'envie de développer des formats un peu plus légers parce que un spectacle, ça peut coûter très cher. On a parlé du live magazine. Un spectacle du live magazine, c'est très cher parce que y a énormément de gens sur scène. Et puis, c'est des spectacles qu'on peut pas rentabiliser, qu'on peut pas faire tourner. Donc là, nous, l'idée, c'était de... Parce que les journalistes ont un travail et donc ils peuvent pas faire 10, 15, 50 dates. Donc nous, l'idée, c'était vraiment d'avoir des formes assez légères. Donc on a cette idée du journal intime où c'est un journaliste qui vient raconter un événement médiatique sur lequel il a travaillé longuement. On a de l'interview participative. Donc là, l'idée, c'est de l'interview publique, mais au lieu qu'elle soit faite par un journaliste, il y a un journaliste qui a accompagner un panel de volontaires pour interviewer, mais faire une vraie interview, pas juste les citoyens ou façon téléphone sonne quand on pose des questions comme ça un peu à la volée. C'est vraiment l'idée de construire une interview, de comprendre comment ça fonctionne. Et puis deux formats qui sont plus ou moins inspirés de choses qui existent déjà, ce qu'on appelle le prestacle, c'est-à-dire un spectacle d'information. Il y a plusieurs journalistes qui viennent raconter des petites histoires, entre guillemets, en tout cas un sujet sur lequel ils ont travaillé. C'est des formats courts, c'est à peu près huit histoires qui font 8 à 10 minutes, on va dire, sur un thème particulier. Donc ça se rapproche beaucoup de ce que fait le live magazine, même si c'est chez nous éditorialisé autrement. Et puis de l'enquête sur scène, ça c'est Média Vivant à Marseille qui a créé ce format-là en France. Et donc en avril, on essaiera d'en proposer une. Mais probablement, Média Vivant propose des enquêtes originales. Là, l'idée, nous, c'est plutôt d'adapter une enquête qui a déjà été faite. Parce qu'en fait, on ne manque pas d'informations. La production informationnelle, elle est gigantesque en France. Donc l'idée, c'est plutôt de mettre en valeur, de trouver un nouveau canal pour des enquêtes qui ont déjà été menées et qui n'ont peut-être pas eu l'écho qu'elles auraient dû avoir.
Alors, je pensais à l'instant, il y a déjà eu un précédent des Trois Ours, hein, il me semble que c'était au Carré Magique à Lannion.
Tout à fait.
C'était laquelle de ces formes, justement ?
C'était un prestacle, c'était un spectacle d'information et qui était dédié à la fabrique de l'information, puisqu'on était sur un événement qui était vraiment dédié à l'éducation aux médias. Et donc là, on avait essayé de faire 8 histoires de journalistes qui remontent. Il y avait 8 spécialités différentes. Donc on avait un chroniqueur judiciaire, un photoreporter, une reporter de guerre, une fact-checkeuse, enfin une data journaliste. On avait vraiment essayé de montrer pas l'intégralité parce qu'on peut pas, mais une grande variété de c'est quoi être journaliste aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait quand on est journaliste et qu'est-ce qu'on vit quand on est journaliste, et pour donner à voir de comment se construit l'info, comment elle se fabrique. Et on était très contents. C'était une super expérience et on est vraiment très très heureux de la collaboration avec le département des Côtes-d'Armor sur cet événement.
En enquêtant un petit peu sur les Trois Ours, je suis tombé incidemment sur la mention du collectif Dans le Vif. Alors je suis allé me renseigner et il m'a semblé que ce collectif avait une démarche tout à fait complémentaire de la vôtre et qu'en même temps, Dans le Vif participe finalement un peu de l'histoire de votre projet. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus ?
Oui, moi j'ai eu la chance donc de rencontrer le collectif Dans le Vif au gré de collaborations et de rencontres comme ça peut se faire à Rennes. On a commencé à travailler un peu ensemble parce que eux ils cherchaient à s'ouvrir un peu ce que c'était, donc dramaturge, comédien, metteur en scène, traducteur aussi, et ils avaient envie d'avoir une partie plus journalistique en se disant ça pourrait nous aider à faire avancer le collectif. Et puis le collectif s'est un peu mis en au niveau de ces projets, ils étaient occupés par d'autres choses, puis il y avait des soucis de financement aussi, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, au moment où moi j'ai commencé à rentrer dans ce collectif, on a commencé à travailler sur le projet des Trois Ours avec Nathanaël Simon et Julie Lalouette-Geffroy. Et donc évidemment, quand pour le spectacle du Carré Magique, il a fallu chercher un metteur en scène et un dramaturge pour nous aider dans le travail d'écriture avec les journalistes, on pourra peut-être y revenir. Il était évident pour moi d'aller travailler plutôt avec des gens du collectif, et en particulier avec Ronan Mansec à la dramaturgie et Gaël Le Guillou-Castel, de la Caravate Compagnie, avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler et les uns et les autres. C'était vraiment très naturel de travailler ensemble.
Ronan, on te retrouve et aussi Louise dans un instant pour évoquer ce qui va se passer bientôt dans une salle bien connue à Rennes autour de l'information, autour du spectacle d'information. Est-ce qu'on peut dire ça? On verra. En tout cas, on écoute une chanson qui parle un petit peu d'information, il me semble,
ouais.
Que tu as choisi pour nos auditeurs. On l'écoute, Bertrand Belin. Nouvelle, vous aurez reconnu Bertrand Belin à l'instant dans l'émission Le Grand Tout sur Canal B. Eh bien, je te repasse la parole, Ronan, pour continuer à discuter avec Louise Katz des Trois Ours.
Eh bien, je la reprends volontiers. Donc, pour cette première, en tout cas en Ille-et-Vilaine, est-ce que vous pouvez nous parler du sujet que vous avez choisi pour Journal Intime 1 ?
Alors, le Journal Intime numéro 1, donc, nous cherchions un sujet clivant qui avait beaucoup occupé l'actualité. Et donc, assez vite s'est imposé à nous l'idée de consacrer ce Journal Intime numéro 1 au procès des viols de Mazan. Ça sera le sujet. On a une journaliste qui va nous raconter la couverture de ce procès, qui s'appelle Cindy Hubert, qui est journaliste police-justice pour RTL. Donc il y aura trois quarts d'heure, elle va raconter sa couverture du procès. Une couverture, elle va nous raconter la petite, la grande histoire, ce qui l'a émue, choquée, ce qu'elle a choisi de taire. Il y aura tout ce récit-là, donc ça sera environ trois quarts d'heure. Et puis après, on aura un deuxième temps, mais toujours dans la salle, d'échange avec le public. C'est un échange qui est animé, séquencé. On essaye de vraiment sortir de... Ça sera pas... je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions, même si, en fait, sur ce sujet-là, il y aura mille milliards de questions sans qu'on ait rien à faire. Mais on essaye vraiment de l'organiser, de le séquencer pour que, justement, il se passe quelque chose d'autre.
Alors, votre choix, c'est porté sur ce procès. Il me semble que ça date du mois de septembre, c'était déjà décidé. Mais, justement, sur ce fameux procès, est-ce qu'on n'aurait pas déjà tout dit sur le sujet? Alors, est-ce qu'on saturerait pas un peu en fait de cette information là?
Alors on a choisi un petit peu plus tard, on a choisi mi-octobre ou fin octobre, je crois, le sujet. Alors s'il a été énormément dit de choses sur le procès des viols de Mazan, et probablement que tout a été dit à un endroit ou à un autre, si on est lecteur assidu du Nouveau Détective, qu'on suit les live tweets des procès, si on écoute tous les papiers, mais en fait il y a plusieurs choses. D'abord, quand j'en parle autour de moi, pour avoir suivi de très près le procès et avoir vraiment travaillé, je me rends compte qu'il y a beaucoup de détails qui ont échappé aux gens, et même pas forcément des détails. Si on demande de dire le nom d'un ou deux accusés et d'avoir vraiment un profil, en fait les gens vont pas savoir. Donc en fait on est vraiment dans un processus où l'information fait beaucoup de bruit, et justement parfois plus l'information est grosse, moins on va écouter. Donc ça, c'est une première chose. Donc je pense que tout a été dit, mais tout n'a pas été entendu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on raconte justement ce qui n'a pas été raconté. Bien sûr, on va essayer de raconter le procès. Donc pour les gens qui n'auraient pas du tout suivi, il y en a quand même. Ils pourront recomprendre ce dont il est question. Mais on va aussi faire le pas de côté et essayer de comprendre, donc par exemple, que la journaliste puisse revenir sur... le papier qu'il a le plus marqué, elle, ou le jour qu'il a le plus marqué, ou des choses un peu plus sensibles, alors qui ont été dites un peu dans les médias, parce qu'il y avait quelque chose de particulier aussi sur ce procès des viols de Mazan, où les journalistes ont plus raconté leur travail que d'habitude. Mais en tout cas, voilà, ça va permettre quand même, en tout cas, nous, dans ce qu'on a travaillé avec Cindy, moi, j'ai appris des choses que j'avais pas lues ailleurs. Donc voilà, donc c'est le petit pas de côté. Des choses qui n'ont pas été dites ailleurs, et puis une manière de regarder autrement cette actualité, et qui a quand même secoué tout le monde, la société. Je crois que tout le monde a un rapport un peu épidermique à ce procès. Il y a quand même une réaction de dégoût, de colère ou d'incompréhension. Enfin, ça génère en tout cas des émotions très fortes. Donc je pense que, en tout cas, moi je ressentais le besoin d'un temps de catharsis collective.
En tout cas, on aura compris qu'il s'agit de parler de l'information, mais sous l'angle du vécu, finalement, de la personne, de l'intime. Alors, pour monter ce spectacle, quelles ont été les grandes étapes de la chronologie pour monter un tel spectacle d'actualité?
Alors, il y avait choisir de quelle actualité on allait parler. Ça aurait pu être la guerre en Ukraine, ça aurait pu être les élections américaines, ça aurait pu être le conflit, la guerre Israël-Palestine. Voilà, ça aurait pu être vraiment... Donc, on cherchait des gros sujets comme ça et des sujets lourds.
donc, ça, c'était à l'automne, c'est
ça? Donc, ça, c'était à l'automne. Ensuite, il fallait trouver la personne qui allait venir parler. Ça, c'était très important parce que les journalistes ne sont pas des comédiens, ils ne sont pas tous partants pour venir sur scène. Il fallait quelqu'un qui ait vraiment vécu le procès au quotidien. Donc on ne voulait pas juste quelqu'un qui ait un avis ou quelqu'un, une essayiste. Il y a eu plein de journalistes qui ont dit des choses très intéressantes sur le procès, mais qui ne l'ont pas vécu. Donc nous, on voulait vraiment quelqu'un qui était 5 jours par semaine là-bas. Donc il y avait ce choix-là. Et puis après, il y a eu tout un travail d'écriture et de mise en scène. Donc là, on s'est retrouvés avec Miguel Bernard, donc, qui est le metteur en scène, et Chloé Maniscalco, qui collaborent pour la mise en scène, parce que comme c'est un format qu'on veut réitérer, ce format du journal intime, c'était intéressant d'avoir une co-création sur la mise en scène. Donc voilà, et puis travail d'écriture, une fois qu'on s'était mis d'accord un peu sur une architecture et les éléments et de comment on allait enchaîner les choses, il y a eu tout le travail avec Cindy de raconte-nous comment ça s'est passé, plutôt ça et ça, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à raconter, et puis tout le travail là de mise en forme, et puis ce qui n'est pas encore fait, le jour J, on va avoir les répétitions, et, on a une création lumière qui est en cours. Voilà, il y a plein de petites choses, et puis après un projet c'est toujours mille et une choses, et comme on est encore une toute petite équipe, il faut alimenter la communication, créer la billetterie, gérer le marketing, enfin voilà, quand c'est des toutes petites équipes comme ça, on fait absolument tout. Donc
alors, il me semble que ce journal intime, c'est le numéro 1, donc ça laisse entendre que c'est un one shot, en tout cas sur ce thème là. Néanmoins, le dispositif scénique, il va rester, c'est ce que j'ai cru comprendre en fait. Là, vous êtes en train d'écrire finalement un peu le pilote
Disons que si on veut bien comprendre, je trouve que l'analogie avec un magazine ou une émission de radio, d'ailleurs ça marche, c'est-à-dire l'idée qu'on va avoir un générique, on va avoir tout un habillage qui va toujours rester, qui va être identifié, mais les invités vont changer, on parlera pas toujours de la même chose, on va, voilà. Et donc c'est un peu ça, comme dans un magazine, on a une maquette qui bouge pas, mais la couverture va changer tous les ans, enfin tous les mois, etc. Donc ça fonctionne, c'est vraiment l'idée de reproduire les codes de la presse, mais au niveau d'une offre de spectacle.
D'accord. Alors, vous revendiquez finalement, enfin, ce qui apparaît, c'est que vous revendiquez finalement l'expression d'une certaine subjectivité dans la transmission de l'info. Il y a une question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est pas un peu paradoxal dans ce présent où on parle beaucoup de post-réalité, voire même de médias d'opinion, qu'on a eu la mauvaise surprise de voir débarquer en France?
Bah, en fait, disons que nous, on fait une différence entre opinion et subjectivité. En fait, on va aller remettre le caractère humain de la fabrique de l'information. On l'avait déjà fait avec le prestacle de Lannion, de comprendre qu'en fait, l'information, elle est fabriquée par des gens qui vivent des choses. Et voilà, pour donner une information tout à fait anecdotique, voilà, par exemple, Cindy nous racontait que pour quand a commencé le premier jour du procès des viols de Mazan, c'était la rentrée de son fils, par exemple. Donc, ça change un peu la manière, elle, dans la manière dont elle a vécu cette journée-là. C'est un élément différent. Donc là, il n'est absolument pas question de donner son opinion, mais il est question de raconter les conditions dans lesquelles les choses se sont faites. Et donc, en fait, c'est une manière de réhumaniser les conditions de production de l'information, ou simplement d'expliquer comment on procède, comment parfois on est submergé par l'émotion, ou comment d'ailleurs notre révolte peut venir nourrir un papier, par exemple. Voilà.
D'accord. Et puis il y a un autre paradoxe aussi, c'est celui du temps très court de l'information, et puis celui du temps nécessairement plus long du spectacle vivant. Alors comment on arrive à résoudre tout ça? C'est un peu risqué, enfin, il y a toujours une prise de risque finalement.
Il y a une prise de risque. Alors après, il y a des actualités qu'on ne peut pas prévoir, ou en tout cas pas complètement. Par exemple, Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée à l'issue des européennes, ça c'est quand même une surprise. Mais là par exemple, le procès des viols de Mazan, on avait quand même un temps long parce que ça durait pendant 4 mois. On n'avait pas le verdict, mais par exemple, quand on a travaillé en préparation, je vous donne le off, quand on a travaillé en préparation, Cindy Hubert, elle nous a fait le récit anticipé du verdict. Elle avait dit, pour moi, ça va se passer comme ça. Bah, c'est sûr, le verdict, ça va être un grand moment, puis elle a commencé à dérouler comme ça. Donc, il y a des choses qu'on peut un petit peu anticiper. Voilà, par Mazan, on avait une date de verdict, et on sait que là, en le faisant en janvier, c'est fini. Oh, c'est pas fini parce qu'il y aura des appels, mais enfin bon, tout ça, il y a quand même un calendrier qu'on peut prévoir. Donc l'idée, c'est quand même d'aller se mettre sur des événements qu'on peut un petit peu anticiper, ou alors d'en parler, mais avec un petit peu de retard. Et c'est pour ça aussi qu'on a une maquette. En gros, une maquette scénique, et qui ne coûte pas trop cher, pour pouvoir justement, hop, voilà. À terme, l'idée, c'est que si il y a à nouveau une dissolution ou un fait d'information qu'on n'est pas du tout pu prévoir, de un mois après, se dire, ok, on peut inviter un journaliste qui s'est retrouvé pris dans le truc et qui a envie de le partager à semi-chaud, quoi, on va dire.
D'accord, donc trouver du prévisible dans l'imprévisible ou l'inverse, quoi.
C'est ça, et être prêt et de pouvoir dégainer assez rapidement comme le font des médias sans pour autant devenir BFM, quoi.
Pour revenir sur la production du spectacle, il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonné. Sur le site de la billetterie, on peut peut-être rappeler l'information. Si on veut assister au spectacle aura lieu le 24 janvier à la salle de la Cité, comment on fait?
Eh bien, on va sur le site www.3ours.fr, 3 en chiffres, 3 chiffres, ours.fr. Et là, il y a sur la page d'accueil, il y a le lien vers la billetterie.
Et alors justement, sur cette billetterie, en fait, il y a plusieurs tarifs proposés et il y a une sorte de camembert, en fait, pour exposer un peu les grands postes de la production. Et j'ai été étonné de cette volonté de transparence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce désir de transparence ?
Alors, je pense que ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui vient un peu des médias indépendants. De plus en plus, on essaye d'expliquer que, parce qu'il y a eu le boom de l'information gratuite, pour les plus vieux d'entre nous verront ce dont on parle. Mais, et du coup, à ce moment-là, on a eu un peu l'impression que l'information, c'était gratuit, c'était sur Internet. Voilà. Donc, de plus en plus, les médias ont dû faire machine arrière, expliquer que ça avait un coût et qu'il fallait payer pour être informé, que ça ne pouvait pas être totalement gratuit. Donc, ça, nous, on a eu envie de transmettre. Et puis, il y a des coupes budgétaires dans la culture. On va de plus en plus demander aux gens de payer par eux-mêmes, donc de comprendre ce qu'ils payent. Et on a 4 tarifs, dont un tarif très bas, à 3 euros, qu'on a plafonné parce qu'on ne peut pas vendre 200 places à 3 euros. Ce n'est pas possible, nous, on ne rentrerait pas dans nos frais. C'est une manière de le montrer aussi. Mais en tout cas, il y a ces places qui existent pour qu'il y ait un maximum d'accessibilité et que même les gens qui ont des tout petits budgets puissent quand même venir.
Eh bien, merci pour toutes ces informations, Louise. Et puis, je crois qu'on peut souhaiter bon vent aux trois ours.
Bah, j'espère, merci.
Et vous pourrez régulièrement découvrir l'actualité autrement, de manière vivante, donc comme du spectacle. Merci beaucoup, Louise. Merci, Renan. À bientôt pour à nouveau parler théâtre.
J'imagine, oui.
Bah oui, je pense qu'on fera ça. Merci beaucoup. Non, ça, on ne fera pas. À bientôt, merci.
À bientôt.
Merci. C'est la session info concert de l'émission Le Grand Tour, en fin de partie sur Canal B, en général vers 17h20, oui, pour le direct. Tout à l'heure, on écoutera deux extraits des albums découverts pour les radios de la Ferrarock, Fédération des radios associatives musique actuelle, dont fait partie Canal B. Vous le savez, sinon, bah, je vous l'apprends. Voilà, les infos concerts qui seront consacrés uniquement à l'actualité de ce beau label dinanais et rennais. Il se partage entre Dinan et Rennes, ceux de Crème Brûlée Records, pour nous proposer de belles choses, comme par exemple ce qui arrivera vendredi 24 janvier. Donc vous devrez choisir entre aller à la salle de la Cité pour Journal Intime numéro 1 par les Trois Ours, ou bien aller retrouver Nick Wildon et ses amis du Make Art Band. On avait vu Nick Wildon à la fin du mois d'octobre pour Halloween, d'ailleurs, du côté des Ombres Électriques. Il était venu d'ailleurs en session live dans l'émission. Et bien, il était avec les Living Paintings à ce moment-là pour jouer l'album Waiting for the Piano to Fall, l'un des deux splendides albums qu'il a sorti en 2024. Et bien, cette fois, il viendra jouer l'album Make Art, le tout dernier en date, avec ses amis donc du Make Art Band. Ça sera au Marquis de Sade. Merci beaucoup Crème Brûlée Records de proposer ce concert-ci. On écoute justement Nick Wildon et ses amis avec ce morceau extrait de l'album que je cité, Naked in Death.
Punish me for not being who you want me to be. Trees for stealing your water, the sun for not giving you a daughter, the cow who laughed in the face of slaughter. You forgot where we came from. I'll need extract joy from slime you never had thought we had gone. In the new morning of gray as that fell, we were riverbanks refusing to swell. The thoughts that are laden and trickle and fat, overrun by doubt, still chain smoker's line, a queen bee to be stung by the child that was hung before him. To say yes for the swan song to swing, we must learn to undress and bathe in the mess of a simple caress. To believe is not a crime, though together is a lie. For now, to believe is not a crime. I'll believe till I die, and I believe that I'll die. I believe that I'll die. In the vein of all that I do, in the vein of all that I've done, in the vein of each and every.
Frissonnante à l'écoute de ce titre de Nick Wilden and Friends, Naked in Death. Si vous voulez, si vous le découvrez simplement, Nick Wilden aujourd'hui, là, en entendant ce titre dans Le Grand Tout sur Canal B, eh bien, vous irez sur nickwilden.com pour mesurer l'étendue du talent du bonhomme, musicien de Sheffield installé en France depuis pas mal de temps. En une vingtaine d'années, eh bien, c'est une vingtaine de groupes différents auxquels il a participé et puis il a aussi fait pas mal de choses tout seul, en solo. Et là, il sera accompagné donc par le Make Art Band lors de son passage à Rennes grâce à Crème Brûlée Records. Ce sera du côté du Marquis de Sade le vendredi 24 janvier. Et puisque Crème Brûlée va vous proposer de beaux événements dans le mois à venir, eh bien, je continue à évoquer ce qui se passera pour le label et la so-organisatrice de concerts. Le vendredi 28 février, eh bien, grâce au Transmusical, ils pourront proposer une soirée à l'Ubu en collaboration donc entre les Trans et Crème Brûlée Records, une nuit à Glasgow, puisque Crème Brûlée Records est un label grand fan de cette scène écossaise de Glasgow, et vous y retrouverez donc ce soir-là, le 28 février, à l'Ubu, DJ Table Table. Il y aura aussi B.O.A.B. et puis Comfort, les frangins frangines que vous avez peut-être vu lors d'une édition passée du festival Pipe à la Pop, et puis vous retrouverez aussi Sweaty Palms. On écoute ce très court et complètement addictif morceau de Comfort, le titre Real Woman. Vous retrouverez forcément le duo le jouer le 28 février à l'Ubu.
Much interest in what's between my legs, but I don't blame them at all. I think I'm fit as well. Walking down the street, and I'm always triggering them, but they got no guts to say what they're thinking. Alpha online fake name, make the same joke again and again. Suddenly, so many men take interest in the woman's game, but couldn't even name a player. Someone else is
what's in your mouth.
I'm an adult human female, penis or cervix, I'm rare. What straights do in private's fine, but keep it out of the public eye. Proclaim you never date a trans person. I'm not mourning it or mistake orgasms. Get it in your head.
crab, I have a standard. You're resistible, they in a burdens ever. I like my mistake, imagine being so fake. You can't even be a bigot like you want it. I'm as real as Rowland, my deep voice a woman.
You say there's too many pronouns, but we have to learn everyone's name.
I'm a vacuum of regrets, what Europe wish we forget. I'm as ancient as the earth, the hell you're dying on.
Les frangins, frangines, Nathalie et Sean, c'était Comfort à l'instant, à voir le 28 février dans cette nuit à Glasgow. Mais à Rennes, oui, parce que ce sera à l'UBU qu'elle sera proposée cette nuit-là. Une proposition des Trans et de Crème Brûlée Records. Vous y retrouverez aussi Sweaty Palms, présenté comme l'un des secrets les mieux gardés de la scène musicale écossaise, qui mélange allègrement post-punk, musique industrielle de temps en temps, no wave, atmosphère psychédélique. Écoutons un extrait de ce titre en live, Nice to be Nice, par Sweaty Palms, ou comme on le dirait dans FTS ou à Glasgow, Nice to be Nice.
The swing of my daily routine. Breakfast, smoke, shower. The low mood looming held no significance to my days. I'd been the same 7 days past. Anyway, I clothed and headed for the street without an inclination of where I was going. It was wet as usual and the people walked quick. I dashed over to the local shop, holding the door for the woman stood behind as she brushed past without regard. Then the strangest things occurred. A swarm of people came in one by one without so much as a thank you. I thought it was all over. A man from across the road held up his arm running towards me. He was in a fit of laughter, shouting, "It's nice to be nice! Nice to be nice, yeah!"
Pour entendre la suite de cette histoire qui m'a l'air pas mal édifiante quand même, vous attendrez le 28 février lors de ce passage de Sweaty Palms qu'on écoutait à l'instant, groupe de Glasgow, invité par l'UBU et Crème Brûlée Records, avec aussi Comfort, B.O.A.B. et puis DJ Table Table. On va terminer l'émission du jour, l'émission Le Grand Tout sur Canal B, avec eh bien à nouveau deux extraits des albums coup de cœur pour les radios de la Rock. Vous les avez entendus déjà depuis lundi, les albums Incoming Blaze, nouvel album pour les Rennais de Clavicule, et puis aussi l'album Echo da Bahia pour le Rennais Thiago Caetano, ambiance très électrique pour débuter, et puis on ira tout doucement vers la fin du Grand Tout avec des ambiances très brésiliennes de Thiago Caetano. Vous retrouverez ensuite, après le Grand Tout, l'émission Curiosité, et puis si vous écoutez ce mercredi, ce sera Thibaut pour une émission de rentrée l'entrée, ça sera Les Richesses du Terroir à 18h sur Canal B. Vous retrouvez bien sûr tous les programmes en réécoute et puis les playlists aussi de temps en temps sur canalb.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
cada gota um poema. O futuro e o presente finalmente se desejam.
Quanto tempo eu não sei.